Roland, votre compagnie, si je suis exceptionnellement ce samedi matin dans notre studio, c'est pour recevoir par téléphone un invité qui vient de publier un ouvrage fort intéressant. C'est pour cela que j'ai souhaité l'inviter. Il s'agit de Michel Goussu. Michel Goussu, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes, on va un petit peu parler de vous avant de parler de votre ouvrage. Vous êtes né en 1976, vous êtes blogueur et chroniqueur littéraire pour des radios, pour plusieurs radios apparemment.
Alors, je travaille effectivement pour des radios associatives, principalement de la fédération des Ferraroc, qui regroupe pas mal de radios libres en France. Et notamment, je travaille pour la rubrique « Des poches sous les yeux ». Sur une radio qui s'appelle Radio Béton à Tours.
Mmh. Et vous avez publié déjà des nouvelles, je crois.
Alors, j'ai publié quelques nouvelles dans des petits recueils ou par des concours. Et j'avais aussi écrit les textes des spectacles d'une compagnie à Brest qui s'appelle la compagnie Hiatus.
Et vous venez de publier votre premier roman chez le Castor Astral. Alors, il m'arrive assez fréquemment de citer des ouvrages du Castor Astral à cette antenne, car il y a de très bons livres qui paraissent chez eux, entre autres des ouvrages musicaux, d'ailleurs.
Alors, le Castor Astral a deux ou trois grandes spécialités. Les ouvrages de musique, avec un grand intérêt pour le rock. Le Castor Astral est aussi un éditeur de poésie.
Et
notamment, le Castor Astral était l'éditeur en France du prix Nobel de poésie Thomas Tranströmer.
Et il faut signaler que cette maison d'édition vient de fêter ses 40 ans.
Exactement, ses 40 ans et son millième livre, avec un livre de Jean-Marie Gouriot sur la thématique des brèves de comptoir.
Oui, je l'ai lu cet ouvrage et il m'avait beaucoup plu. Le vôtre de roman s'appelle « Le poisson pourri par la tête ». Quel titre curieux !
Alors, l'idée de cette phrase-là, c'est que c'est un proverbe chinois qui sous-entend que si la tête d'une organisation, ce qui d'ailleurs étymologiquement, le chef, ça vient bien de la tête, si le chef d'une organisation est corrompu ou inefficace ou manque de compétences, il va systématiquement choisir en dessous de lui des gens qui ne le mettent pas en danger, donc moins efficaces que lui. Et donc le poisson pourri par la tête, si le chef est mauvais, toute l'organisation se retrouve inefficace.
L'histoire se passe dans une société financière où votre héros entre pour commencer à travailler. Et là, il va tomber sur un univers à côté duquel Dallas, c'est presque du pipi de chat.
Oui, alors ce qui se passe, c'est que lui arrive là-dedans en se disant « Ah super, je vais retrouver du boulot. En plus, le monde de la finance, c'est quand même un peu le monde dans lequel on peut réussir à se faire une position. » Donc c'est pas non plus un enfant de cœur au début du roman, mais c'est pas, on n'est pas dans l'univers des traders glamour et qui gagnent des mille et des cents. On est vraiment dans les petites mains de la finance qui font les projets informatiques, qui font tourner la boutique. Et petit à petit, d'ailleurs, il va se rendre compte qu'à part les traders, dans le monde de la finance, on ne respecte à peu près personne. Et il va rentrer dans une logique un peu particulière, qui est celle qui mène au burn-out dans tous les types d'entreprises, qui est « si je travaille plus, on va finir par me respecter ».
Et cela veut dire travailler même le week-end, travailler n'importe quelle heure.
Ça veut dire travailler le soir jusqu'à ce que les agents de sécurité lui disent « bon, maintenant, il faut partir parce que moi, je dois mettre l'alarme ». Et espérer derrière qu'une certaine reconnaissance lui sera apportée à la fin du projet sur lequel il travaille. Et d'ailleurs, il y a dans le livre une critique du mode, ce qu'on appelle le mode projet, qui fait enchaîner des tâches à des dates déterminées. Le fait d'avoir des dates finales fait que les gens courent en avant, en croyant qu'à la fin d'un projet, on les laissera se reposer un peu avant le suivant. Et puis quand commence le suivant, quand termine un projet, on est déjà en train de commencer le suivant et on est du coup toujours en train de courir après le temps sans pouvoir prendre de plaisir dans son travail.
Et ceux qui tirent en fin de compte avantage de tout cela, ce sont généralement les supérieurs hiérarchiques qui n'ont pratiquement pas travaillé.
Exactement. C'est-à-dire que le travail principal des supérieurs hiérarchiques, Du coup, c'est un peu d'organiser l'enfumage, c'est-à-dire de faire en sorte que les salariés ne se rendent pas compte qu'ils travaillent plus que ce qu'ils devraient, et surtout d'empêcher que les salariés deviennent compétents. On les fait travailler en parallèle sur plusieurs projets. Au lieu de mettre une personne par projet, par exemple, on va mettre 5 personnes sur 5 projets, chacun travaillant seulement sur un petit bout pour ne jamais avoir de vue d'ensemble, donc ne jamais se sentir compétent, donc ne jamais mettre en danger leur supérieur hiérarchique.
Et là, on retrouve un petit peu le vieux slogan de 68, à la limite, c'est la hiérarchie, c'est comme les étagères, plus c'est haut, moins ça sert, puisque plus ils sont hauts, moins ils font de choses.
Ah, c'est exactement ça, c'est exactement ça, c'est le poisson pourri par la tête dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'effectivement, plus il y a de gens en dessous de vous, plus vous pouvez vous reposer sur leur travail, et si jamais ça marche, vous tirez les marrons du feu, et si jamais ça marche pas, vous pouvez accuser tous ceux qui sont en dessous de vous.
Et parmi les personnages, alors il y a ceux qui sont totalement cyniques, mais il y a aussi des gens qui se laissent berner sans même s'en rendre compte.
Alors le truc le plus triste dans ce phénomène du burn-out, c'est qu'on voit dans le roman, on voit que la personne qui appuie le plus sur la tête du narrateur quand il a déjà la tête sous l'eau, est une personne qui elle-même se débat pour survivre parce qu'elle est... donc Blondine, qui est sa chef directe, qui est complètement incompétente, complètement incapable d'assumer les responsabilités qu'on lui donne, et à qui on a donné un petit ensemble de recettes qu'elle applique sans jamais les comprendre. Donc on la voit un petit peu comme Homer Simpson qui appuie sur des boutons dans une centrale nucléaire parce qu'on lui a dit qu'il fallait appuyer sur ça quand ça clignote, quoi.
Et le mieux à faire dans ce cas-là, c'est de brasser beaucoup d'air, même quand on ne fait rien.
Exactement. D'ailleurs, on a un autre personnage qui est le pendant du narrateur et du héros de ce livre, qui est un peu le guerriero taoïste de l'entreprise, qui considère que par le non-agir, il n'y a rien qui ne se fasse. Et donc, du coup, lui ne se contente de ne pas faire ce que lui dit sa chef, jusqu'à ce qu'elle se retrouve en porte-à-faux et redispatche le travail qu'il avait à faire sur quelqu'un d'autre.
Depuis la sortie de cet ouvrage, avez-vous eu des contacts avec des gens vivant ce genre de situation?
Alors,
qui l'ont lu, bien évidemment.
Oui, tout à fait. J'ai eu deux types de réactions. La première, c'est celle des gens qui ont subi un burn-out et dont certains sont venus me voir. On était avec le Castor Astral au Salon du Livre le week-end dernier. Et... il y a une personne qui est venue me dire, qui anime des groupes de parole pour des personnes victimes de harcèlement moral, et qui me disait qu'une personne de son groupe, à un moment, avait acheté le livre en lisant Burnout comme sous-titre, et à un moment dans son entreprise n'en pouvait tellement plus qu'elle était partie s'enfermer aux toilettes pour lire le livre, et qu'elle l'a lu quasiment d'une traite jusqu'à arriver au moment où justement le narrateur est tellement lui-même en souffrance qu'il s'enferme aux toilettes de son entreprise.
Oui,
donc... Et donc, elle a eu cet effet d'écho et qui m'est revenu par plusieurs témoignages qui consistaient à dire « Ah bah oui, en fait, c'était dans mon entreprise. » Alors qu'en réalité, c'est un ensemble d'entreprises dont je me suis inspiré, bien entendu.
Et même dans certaines administrations, cela se vit également. Ce n'est pas uniquement dans le privé.
On le retrouve à partir du moment où l'entreprise est de taille suffisante pour qu'il n'y ait pas de rapport de confiance direct. C'est-à-dire que à partir du moment où on ne se parle pas et où on croit qu'on peut faire du management uniquement avec des indicateurs, on se retrouve avec ce type de dérive.
Eh bien, Michel Goussu, je vous remercie beaucoup. Alors, ce livre, vraiment, je le conseille à tous ceux qui sont, dirons-nous, enquiquinés par des petits chefaillons ou autres et qui les contraignent à aller plus loin que leurs limites, si l'on peut dire. Cela, je crois, leur fera une bouffée d'oxygène de voir que, malheureusement, ils ne sont, et c'est triste à dire, mais ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Et cet ouvrage, je rappelle son titre, c'est « Le poisson pourri par la tête ». C'est paru au Castor Astral, qui, je le répète, est une maison qui vient de fêter ses 40 ans. Et vous avez dit son 1000e livre.
Exactement, sachant que je termine juste en disant que ton 1000e livre est que le premier livre numérique qui sera publié par le Castor Astral sera la version numérique du Poisson pourri par la tête.
Mais quand cela sera fait, signalez-nous que nous puissions le dire à l'antenne.
Je vous remercie beaucoup, j'y manquerai pas.
Merci et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Au revoir.
Merci beaucoup et merci à Radio Massadiel. Au revoir.